Bonjour à tous, je suis Véronique Brard, enseignante en Voice Dialogue, et aujourd'hui je vais vous parler du pouvoir. Lorsque nous entendons le mot « pouvoir », nous pensons le plus souvent à quelque chose de négatif, au pouvoir injuste, au fait de vouloir dominer ou asservir l'autre. En fait, nous craignons notre pouvoir et nous craignons celui des autres. Il s'agit là de l'aspect malade du pouvoir. L'invitation aujourd'hui est de regarder le pouvoir différemment et d'amener une nouvelle réponse à cette question très importante : quel est mon pouvoir ? Pour commencer, regardons ce qu'est le pouvoir. Le pouvoir, dans sa vraie nature, est le soutien électrique et énergétique de qui et de ce que nous sommes. Le pouvoir, c'est la force vitale qui soutient tous les éléments qui nous composent. C'est le sentiment d'être présent, lumineux, vivant, capable de faire circuler l'énergie dans tout notre corps et nos champs énergétiques. Lorsque nous avons notre pouvoir, notre esprit, notre corps, notre voix deviennent magnétiques. Et nous pouvons réaliser les désirs de notre cœur. Le pouvoir est un sentiment puissant qui amplifie l'énergie de l'âme et du corps. Il multiplie nos chances d'expérimenter la vie de façon fluide avec ce sentiment d'aimer et d'être aimé qui nous rend si heureux. En tant qu'être humain, nous sommes issus d'une extraordinaire technologie. Elle est biologique au niveau du corps et énergétique au niveau de l'âme. C'est pourquoi, lorsque nous travaillons avec l'énergie de l'âme, nous pouvons être vecteurs de puissantes transformations. C'est possible lorsque nous incarnons physiquement ce que nous apprenons, lorsque nous nous donnons la permission de devenir qui nous sommes et de recevoir ce que l'univers nous offre. Ce processus nous est offert tout au long de notre vie. Lorsque nous lui accordons notre attention, la vitesse de transformation se multiplie. En général, nous permettons à notre pouvoir de s'épanouir uniquement dans certains domaines très précis et rétrécis. Nous ne développons prudemment que quelques talents spécifiques pour être certain de rester quelqu'un de bien, quelqu'un qui ne prend pas toute la place et quelqu'un qui n'écrase pas les autres. Découvrir et réclamer les parties de notre âme et de notre personnalité qui ont été abandonnées au fil du temps et qui peuvent nous revenir aujourd'hui nous permet d'élargir notre pouvoir. Notre époque actuelle permet une évolution rapide. Grâce à la jeune génération qui augmente la fréquence et la vitesse de transformation sur Terre et grâce aux générations précédentes qui témoignent de l'inadaptation des systèmes sur lesquels elles se sont appuyées. Ces systèmes peuvent changer en raison du développement du potentiel humain et de l'élévation de la conscience, beaucoup plus évidente aujourd'hui qu'au cours des 7 dernières années. Nous sommes en gestation, aussi bien en ce qui concerne notre corps que notre conscience. Mais il est important de comprendre que ce qui se passe dans notre monde intérieur peut être totalement différent de ce qui se passe dans le monde extérieur. L'une des choses les plus dangereuses est de se laisser aller au défaitisme et de nous sentir paralysés à cause de ce que nous voyons dans le monde extérieur. Démissionner, ne plus se permettre d'être heureux sous prétexte que le monde va mal, perdre confiance en la vie, c'est ainsi que nous renonçons à notre pouvoir. La plupart des médias aujourd'hui nous incitent à porter notre attention sur ce qui ne va pas dans le monde. Cela entraîne une grande hypnose collective. C'est pourquoi il est essentiel de s'informer, de préférence via des médias indépendants, tout en veillant surtout à diriger notre attention vers toute autre chose. vers l'exact opposé de ce qui nous est proposé. L'opposé de la peur et des mauvaises nouvelles, c'est la confiance, l'amour et la joie. Là où va notre attention, là va notre énergie. Diriger notre attention vers nos buts, là réside notre plus grand pouvoir. Et c'est bien pour ça que beaucoup cherchent à capter notre attention. Le monde extérieur ne reflète pas toujours ce que nous sommes. Nous pensons parfois que ce qui se passe dans le monde nous reflète. Ce n'est pas la réalité. Tout ce que nous rencontrons ne nous reflète pas forcément. Cette pensée est un peu, disons, narcissique et surtout sans nuance. Nous pouvons nous retrouver dans tout. Nous pouvons nous sentir connectés à tout. Mais tout n'est pas un reflet de ce que nous sommes. Le monde est plus complexe que cette façon de voir. D'une façon générale, nos systèmes économiques et politiques et nos dirigeants ont des vibrations bien inférieures à celles de l'humanité dans son ensemble. L'humanité dans son ensemble n'a pas des vibrations aussi basses. Mais lorsque nous restons angoissés, à désespérer du monde, à nous plaindre du monde, à penser que le monde va mal, nous nous alignons avec ces énergies beaucoup plus basses. Bien sûr, il est normal d'avoir des moments de tristesse, de ressentir de la compassion pour les peuples des pays en guerre. Faire l'autruche et penser que tout va bien n'est pas la solution. Mais se laisser kidnapper par l'image du monde extérieur en pensant que nous n'avons aucun pouvoir n'est pas juste non plus. Nous pouvons être en avance sur l'évolution du monde extérieur. En fait, nous sommes en avance sur cette vibration globale et nous devons l'être. La nouvelle humanité est en train de naître aujourd'hui dans le cœur, l'esprit et le corps d'un grand nombre d'humains. Au fur et à mesure que nous allons avancer vers 2030, nous serons toujours plus nombreux à construire non seulement les structures de l'avenir, mais son climat général. Des perturbateurs et des agents de changement se lèvent un peu partout. Nombreux sont les esprits libres qui pensent différemment. Un esprit libre est différent d'un rebelle. Être rebelle, c'est souvent être en mode destruction, ou du moins être contre assez systématiquement. Un esprit libre, c'est une personne qui, lorsqu'on lui dit qu'un mur est bleu alors qu'il est clairement rouge à ses yeux, prend la parole et dit que ce mur est rouge. L'esprit libre peut être réprimandé, fustigé, emprisonné, brûlé, mais finalement, il autorise d'autres personnes à voir que le mur est rouge, ce qui était la vérité depuis le début. L'époque où l'on emprisonnait ou brûlait les esprits libres peut être encore très présente dans nos mémoires. Cependant, avec le souci de ne pas polariser et la prudence venue des leçons apprises, cette époque se termine aujourd'hui. Une augmentation globale de notre pouvoir est possible et souhaitable en 2025. Cette élévation de notre pouvoir personnel n'est en rien liée à la dynamique du pouvoir dans le monde extérieur. Notre monde extérieur est en mutation et continuera de l'être pendant quelques décennies. Nous verrons encore bien des guerres entre certains groupes humains et politiques et nous allons encore naviguer dans les eaux sombres d'un pouvoir malade. Les anciennes structures ne vont pas lâcher facilement, même si elles sont dans leur propre processus de démantèlement et de dissolution et se détruisent elles-mêmes à travers les luttes intestines entre des groupes qui veulent le pouvoir et le contrôle. Parallèlement, nous sommes invités plus que jamais à prendre soin de notre croissance personnelle et de notre guérison. Nous sommes invités à créer et à nous recréer. Il existe un immense soutien de l'univers lorsque nous voulons nous libérer des idées rigides, des contraintes, des croyances, des peurs qui ont pu être utiles pendant un certain temps mais qui ne le sont plus. Il en est de même pour les pratiques assez rigides que nous suivons parfois depuis des années. 2025 peut être une année où nous abandonnons, avec amour et gratitude, certaines de ces pratiques, disciplines et façons de penser, car elles ne correspondent plus à la rapidité des énergies de transformation qui nous bombardent, nous et la Terre, en ce moment. Il n'est pas bénéfique et il nous sera difficile de rester dans les routines rigides de nos contrôleurs ou sous l'autorité d'énergies qui ne nous servent plus, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Cette énergie de transformation propre à 2025 nous amène à prendre notre pouvoir sur notre monde intérieur pour manifester et rayonner ce que nous désirons manifester et rayonner. Ressentir notre joie, notre lumière, notre capacité à créer, à être en paix, ne serait-ce que quelques minutes par jour, nous permet de nous réapproprier ces sentiments et les copersonnalités qui les portent. Nous sommes ici, avant tout, en tant qu'une âme vivant sur Terre. Même si nous avons été éduqués pour être des humains avec des règles très limitées et une connaissance très limitée sur ce qu'est un être humain. Nous avons été collectivement amenés à croire que nous n'avions pas la capacité de créer des changements significatifs dans notre vie ou dans le monde. C'est un mythe. Il existe des parts de nous que nous pouvons réclamer et retrouver. Nous avons le pouvoir de redevenir complet et un créateur, non dans un ou deux domaines de notre vie, mais dans tous. Notre pouvoir peut être présent dans toutes nos dimensions. Nous avons été nourris de mensonges quant à notre potentiel. Il est temps de nous réveiller et d'expérimenter avec curiosité ce qui est possible aujourd'hui. Rester pris dans nos peurs nous prive de cette exploration. Il nous faut aussi sortir de l'empreinte de la guerre. Aucun d'entre nous n'a besoin de se battre pour imposer quoi que ce soit. Et si une personne nous agresse, elle nous dit simplement que notre chemin n'est pas le sien. Trouver un moyen de désamorcer le conflit est le meilleur parti à prendre. Lorsque ce n'est pas possible, nous pouvons partir. Sortir de l'empreinte que la guerre a laissée dans nos énergies humaines, c'est ne pas chercher à avoir raison. Cette empreinte de la guerre a été introduite dans l'humanité voici bien longtemps par des êtres qui ne voulaient pas notre bien. Les systèmes et les acteurs du pouvoir malade ont initié et encouragé les guerres depuis aussi longtemps que nous nous souvenons. Cependant, ce n'est pas ce que nous, en tant que peuple, désirons aujourd'hui. Il s'agit donc de devenir souverain. Il s'agit de nous libérer de l'identification au monde extérieur, de l'influence que le monde extérieur désire avoir sur nous et de s'apercevoir de la façon dont notre attention est manipulée. Cela ne veut pas dire ne pas soutenir ceux qui sont pris dans les zones les plus sombres dans lesquelles nos systèmes les poussent. Cela ne signifie pas dire à tout le monde que tout va bien. Il ne s'agit pas de se déconnecter des autres. Il s'agit de reconnaître qu'en tant qu'être souverain, nous pouvons devenir de plus en plus maîtres de nos énergies chaque jour. Même les jours où nous avons l'impression de régresser et d'être très négatifs, le cadeau est que nous en sommes conscients. Et lorsque la vision consciente est présente, nous ne nous jugeons pas. À un moment donné, cette conscience n'existait pas. Nous ne remarquions pas cette négativité. Nous devenions cette négativité. Nous l'incarnions. Ce comportement vient aussi de la nuit des temps et a été réanimé par nos blessures d'enfance. Nous libérer d'une culpabilité, au final assez orgueilleuse, nous permet de continuer nos apprentissages. Nous pouvons devenir maîtres de nos mouvements intérieurs et de notre énergie. Cela nous demande de sortir des histoires figées que notre mental émotionnel nous raconte. Tout comme des émotions fixées dans des traumas anciens par les injonctions de nos critiques terrifiées ou de nos tyrans rigides. Cela nous demande de faire l'expérience que l'émotion, libérée du mental, est mobile. En fait, tout est mobile en nous, hormis nos histoires mentales. Lorsque nous bougeons et réorganisons ce que nous sommes à l'intérieur, notre monde extérieur commence à refléter et à magnétiser ce nouveau niveau de conscience et de pouvoir qui est le nôtre maintenant. Cela nous demande aussi de continuer notre travail de guérison avec amour et compassion pour nous-mêmes. Nous découvrons, au fur et à mesure de notre travail de conscience, des couches peu agréables de nous-mêmes. Les reconnaître est la première étape pour nous en libérer. La seconde est de les explorer, la troisième, de s'en décaler. Aujourd'hui, les énergies dont nous prenons conscience peuvent nous quitter si nous le désirons. Nous les avions gardées pour nous protéger. Ce n'est pas une erreur. Erreur est un mot du critique. Prenons un exemple. Lorsque nous sommes justement une personne très critique envers nous-mêmes et ou envers les autres, et que nous nous en rendons compte, la première étape est accomplie. Remarquer et reconnaître qu'il existe en nous une voix très critique. La deuxième étape va nous demander de faire quelques recherches pour se voir d'où cela vient, quand cela a commencé, de qui avons-nous appris, quand avons-nous tellement peur que nous avons développé un critique pour nous critiquer avant que quiconque ne le fasse. Nous pouvons faire ces recherches sans porter de jugement sur nous ou sur les autres. Nous pouvons découvrir la racine d'un problème sans nous juger ou juger les autres. Ce serait plus utile de se réjouir de nos prises de conscience. Par exemple, j'étais entourée d'adultes critiques, j'ai donc appris à me critiquer. J'ai compris que si je n'étais pas aussi critique envers moi-même qu'ils l'étaient envers eux, j'allais souffrir. J'ai donc développé mon propre critique intérieur et il m'a aidée à me protéger. Développer ce critique était de l'autoprotection et probablement le mouvement le plus sage. Oui, il est là maintenant depuis 20 ans, 30 ans ou plus. Mais pendant ces années, nous avons aussi développé des côtés intelligents, aimants, talentueux, généreux. Nous en réjouissons-nous ou nous reprochons-nous d'avoir un critique? Bien sûr, notre critique aime la critique. Il la préfère à tout autre raisonnement. Avec son grand complice, le pseudo-rationnel, ce mental émotionnel comme je l'appelle parce qu'il a les deux pieds dans l'émotion, avec ce grand complice, pour nous protéger, aujourd'hui encore, notre critique verrouille notre faculté à penser différemment. C'est là où la troisième étape est importante. Nous devons clairement nous séparer de cette énergie critique, reconnaître son influence et développer un mental et un rationnel clair. Nous sommes déjà parfaits tels que nous sommes, car nous sommes l'exacte expérience que notre âme est venue faire en choisissant cette famille, ce corps et cette époque. Nous pouvons bien sûr évoluer, conserver les aspects de notre passé qui nous servent et laisser aller ceux qui sont dépassés, périmés, qui ne nous servent plus. Il n'est jamais trop tard pour permettre à la lumière de nous traverser. La lumière est le plus incroyable des transformateurs et en tant qu'être humain, accéder à la lumière est notre droit de naissance. À chaque instant, nous sommes parfaits tels que nous sommes, avec toutes nos imperfections, et notre travail de guérison nous amène à reprendre la totalité de notre pouvoir. Nous faisons ce travail à la fois pour nous et pour l'humanité. Lorsque nous devenons quelqu'un qui est davantage libre de son critique intérieur, nous traçons un chemin et nous portons cette liberté dans nos auras. Nous en informons la planète et l'univers. Éventuellement, les personnes prêtes à faire de même viendront vers nous. En revanche, celles qui ne sont pas prêtes à voir et à se séparer de leurs critiques pourront nous rejeter. Leur champ vibratoire s'anime à notre contact, et si ce n'est pas le bon moment pour elles, ou si nous ne sommes pas la bonne personne pour elles, elles nous rejettent, éventuellement nous attaquent. Les laisser aller est la meilleure solution. Elles ne veulent pas aller où nous allons, et nous ne voulons pas rester où elle se trouve. Être dans son pouvoir, c'est se permettre à la fois de ressentir et de poser ses limites. Lorsque nous pensons « je me sens mal à cause de tout ce que je vois dans le monde », la réalité est que nous nous sentons mal, point. Tout ce que nous voyons dans le monde nous conforte dans ce sentiment difficile parce que notre mental émotionnel cherche systématiquement à étayer ce que nous ressentons. Bien sûr, nous avons des empathes et des enfants extrêmement sensibles dans notre personnalité. Ce sont deux copersonnalités qui se sentent souvent l'otage des sentiments et des émotions des autres, au point qu'il peut nous être difficile de savoir qui nous sommes et ce que nous ressentons en propre. Le défi est de cultiver suffisamment d'amour et d'estime pour nous-mêmes pour pouvoir poser nos limites. C'est crucial pour ne pas rester les victimes du monde extérieur. Savoir ce que nous ressentons est important. Il ne s'agit pas d'éviter notre chagrin, notre état dépressif, notre sentiment d'être sans valeur, notre peur de déplaire, notre besoin de sauver l'autre. Il s'agit de ne pas s'installer dans ces sentiments. Lorsque nous prêtons attention à la vie en nous et à l'extérieur de nous, lorsque nous nous relions à notre corps, à la nature, aux animaux, nous permettons à ces sentiments difficiles de bouger. Tout change constamment. Nous passons d'un besoin à un autre, d'un sentiment à un autre, d'une émotion à une autre, de la tristesse à la joie, de la colère à la paix et inversement. Tout bouge, tout change, même le plus grand deuil s'éclipse un jour, à condition de se permettre de se ressentir vivant, de ressentir le vivant en nous et de ne pas être le jouet de croyances fixes. Un des aspects majeurs de notre pouvoir est celui d'exprimer qui nous sommes. C'est un pouvoir qui nous fait très peur car il risque d'amener des changements aussi bien pour nous que pour les autres. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer d'harmoniser tout ce qui se passe entre nous et les autres pour que cela soit confortable. Beaucoup d'entre nous vivent de façon harmonieuse grâce à l'attention que nous portons aux autres, à notre capacité de négociation, à notre attention à ne pas laisser les malentendus s'installer et à faire le nécessaire pour que nos différentes relations ne soient pas source de conflits. Dans certains cas, le point d'équilibre que nous avons trouvé a été durement acquis. Si nous le perturbons parce que certaines parties de nous veulent maintenant s'exprimer davantage, notre système primaire s'alarme. Ce n'est pas tant notre corps physique qui veut nous protéger, ce sont certaines parties de nous présentes dans notre champ énergétique et liées à notre système nerveux. Elles détiennent nos archives, les archives de tout ce que nous avons vécu sur Terre jusqu'à présent et ou dans d'autres vies. Lorsque nous choisissons de nous exprimer davantage ou de faire évoluer notre vie professionnelle ou privée, ces copersonnalités protectrices vont s'animer. Elles sont comme des parents qui nous voient toujours comme un enfant à protéger. Elles ont peur que nous ne soyons pas prêts pour ce changement et verrouillent assez systématiquement le système. Notre mental commence alors à s'inquiéter et à tourner en rond parce que nous avons eu cette nouvelle vision, cette nouvelle idée, ce besoin d'évolution et certaines parties de nous en lien avec notre système nerveux, ne veulent pas s'y ouvrir. Un conflit intérieur commence. Nous passons souvent à côté de l'importance de ce conflit. Nous pensons que nous sommes dans une phase de blocage, quand en réalité, il n'est pas possible de se transformer sans avoir ce moment de chaos, de conflit, de négociation. Personne ne met de côté à la légère une ancienne couche d'identité. Cette partie protectrice nous a amenés aussi loin que possible et lorsque nous désirons passer au niveau suivant, elle est concernée par ce changement. Il lui faut certaines sécurités pour l'autoriser. Cette lutte intérieure est en fait la fertilisation de notre rêve de transformation. C'est une préparation. Notre partie protectrice passe en revue la liste des points à vérifier et des équilibres à faire avant de nous permettre de sauter de l'avion. Nous pouvons ainsi créer de magnifiques parachutes. Lorsque cette phase tourne en rond un peu trop longtemps, il peut être intéressant d'explorer ce que dit le critique ou de rechercher une vulnérabilité cachée. Nous sommes tous très conscients que nous sommes ici pour évoluer. Mais initier l'évolution est un moment effrayant. Nous entrons dans la fenêtre d'une nouvelle ligne temporelle. Ce que nous percevons comme une résistance est une préparation, une fertilisation de cette nouvelle ligne de temps. Une vérification minutieuse du point où nous en sommes pour nous assurer que nous sommes prêts à passer à l'étape suivante sans abandonner où nous sommes allés, qui nous avons été et ce que nous avons vécu. Faire le point avec l'ancien au moment où nous entrons dans le nouveau, c'est s'assurer que nous emportons avec nous les leçons de l'ancien qui vont devenir les fondations du nouveau. Nous ne pouvons pas prendre du retard sur les progrès que nous voulons faire. Nous pouvons dire « Oh, j'aurais aimé faire cela voici des années », mais nous ne l'avons pas fait, et c'est maintenant que ces regrets nous font perdre du temps et de l'énergie. Nous ne l'avons pas fait pour une bonne raison, ce n'était pas le bon moment. Ni nous, ni le monde n'étions tout à fait prêts. C'est une chose de créer notre prochaine étape lorsque nous vivons seuls, c'en est une autre lorsque d'autres humains, d'autres êtres et le monde sont impliqués. Tous les cycles de la vie prennent du temps. Il faut 9 mois pour faire un bébé. Ceci pour des raisons physiques, mais également pour nous préparer et préparer énergétiquement et psychologiquement ceux qui nous entourent. Pour sentir que ce qui est bon pour nous l'est aussi pour l'autre. Nous voulons sauter de l'avion et pouvoir planer suffisamment pour voir où nous allons atterrir, comment nous allons atterrir, sentir la brise sur notre visage et faire l'expérience d'être dans ce vaste ciel avec la certitude que notre parachute va s'ouvrir et que tout est à sa place. Il n'existe aucune urgence car nous ne voulons pas que cela se passe d'une manière chaotique ou brutale. C'est la beauté des temps actuels, nous permettre de nous préparer et permettre aux autres de se préparer. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Lorsque nous savons au plus profond de nous que notre contrat d'âme avec notre partenaire est terminé, lorsque nous le ressentons profondément, même si nous sommes encore prêts à essayer de redynamiser notre relation, même si nous aimons encore notre partenaire, lorsque c'est le moment pour nous de finir cette relation, notre partenaire le sait aussi. Cela ne veut pas dire qu'il le sait consciemment, qu'il va se sentir bien avec notre mouvement ou accepter facilement notre point de vue. Nous pouvons devenir conscients et ressentir ce qui nous travaille et à un niveau subtil, notre partenaire peut aussi en avoir conscience et le ressentir. C'est une question de communication énergétique. Tous les êtres humains sont câblés pour ressentir énergétiquement. C'est pourquoi certains font des expériences qui les mettent mal à l'aise lorsque les paroles d'une personne ne correspondent pas à ce que dit son énergie. Nous pouvons dire à la partie de nous qui s'inquiète en pensant aux personnes de notre entourage qui vont être affectées négativement par nos nouveaux choix, que si ces personnes sont connectées à nous au niveau de l'âme, elles savent déjà que c'est le prochain pas pour notre âme. Si elles ne sont pas connectées à nous au niveau de l'âme et veulent que nous répondions à leurs besoins au détriment des nôtres, c'est peut-être une bonne raison de réfléchir à l'équité. Donner à ceux qui nous aiment un demi-engagement, une demi-vérité, ne peut les satisfaire et les nourrir réellement. Lorsque nous avons un gentil très puissant Il est nécessaire de l'équilibrer avec le respect et l'amour de nous-mêmes. En tant que gentil ou celui qui ne veut pas déplaire, nous pensons agir pour protéger l'autre. Et à un certain niveau, ou par routine, c'est ce que nous faisons. Nous tentons de prendre soin ou de satisfaire sa partie dépendante et parfois aussi la nôtre. Si notre partenaire a du mal à prendre soin de ses enfants intérieurs, il sera rassuré. Mais nous perdons notre sang et nous ne pouvons en perdre qu'une quantité limitée. Parfois, notre intuition nous empêche de nous exprimer. Notre intuition sait que ce n'est pas tout à fait le moment pour nous ou pour l'autre. Mais notre heure arrive. Elle doit arriver. C'est une question de croissance pour nous et pour l'autre. Une question de prendre notre pouvoir et de laisser l'autre retrouver le sien. Nous sommes tous perpétuellement en métamorphose. Exprimer notre vérité la plus profonde, celle qui est liée au chemin de notre âme, emmène toujours nous et ceux qui nous entourent vers le prochain pas de croissance. Aucun d'entre nous, par exemple, ne souhaite perdre un être cher. Mais la mort est inévitable sur notre planète. Lorsque nous perdons cet être cher, et c'est toujours une décision de l'âme prise en accord avec l'âme de ceux qui restent, lorsque nous perdons cet être cher, nous traversons une période de deuil. Le deuil peut être vu comme le grand transformateur. Parce que nous avons aimé cette personne et avons été aimés par elle, parce qu'elle n'est plus là dans sa forme physique, nous devenons quelqu'un de différent. C'est la même chose dans les séparations. L'expression de l'âme n'est pas toujours accueillie à bras ouverts, mais elle est source de croissance si nous l'acceptons. L'expression de ce que nous sommes ne peut être emprisonnée sans dommage pour nous, les autres et le monde. Au fur et à mesure que nous devenons un être humain davantage conduit par l'âme, notre expression amène davantage de lumière aux autres, même si, parfois, elle les ramène douloureusement à eux-mêmes. Nous sommes tous perpétuellement en métamorphose tout le long de notre vie, physiquement, psychologiquement, mentalement et énergétiquement. Du bébé à la vieillesse, c'est un incroyable voyage où la métamorphose est toujours la règle. Même durant ces années dites de sagesse, où, si nous laissons notre corps ralentir, la conscience devient plus profonde, la présence s'approfondit elle aussi, et de nouvelles prises de conscience continuent encore et encore à monter comme des bulles. Nous sommes des pièces d'art uniques. D'instant en instant, nous sommes l'expression extraordinaire d'une âme spécifique dans un corps humain spécifique. Une formule tout à fait unique qui ne se reproduira jamais. Devenir qui nous sommes ne peut se marchander ou se réduire trop longtemps, même pour ne pas déplaire. Être vivant et créatif, nous exprimer en accord avec le chemin de notre âme et ce qui nous rend profondément heureux, ce qui fait vibrer notre cœur et notre feu intérieur. Se servir de notre pouvoir de manifestation nous demande une ou des intentions très claires, même si nous affinons ou transformons cette intention en cours de route. Nous pouvons aussi soutenir cette intention, ces intentions, par des affirmations très régulières. Par exemple, j'ai le droit d'être pleinement moi-même ici sur Terre. Ou, je suis ici sur Terre pour vivre l'abondance, la légèreté, la facilité et la joie. Ou toute autre affirmation qui nous convient et convient à la situation que nous désirons transformer ou manifester. Pour que nos intentions et affirmations puissent s'activer, elles doivent partir du cœur, non du mental. Affirmer une chose mentalement quand notre critique ou notre rationnel en affirme une autre est voué à l'échec. Lorsque certaines de nos croyances sont contraires à ce que nous affirmons, explorer les copersonnalités qui portent ces croyances, les rassurer lorsque c'est possible, s'en décaler dans tous les cas, sont une première étape nécessaire à la réalisation de ce que nous désirons manifester. Passer du mental au cœur est la seconde étape, et cela demande une certaine maîtrise du mental et un mouvement d'ouverture et d'intériorité pour ressentir l'amour infini qui est la pulsation première de l'univers et le point d'origine de notre corps. Nous pouvons absorber cet amour dans lequel nous baignons grâce à chaque atome de notre corps. Chaque atome de notre être est une porte vers les mondes intérieurs et cette pulsation infinie, éternelle, puissante. Lorsque cette expérience avec notre essence n'est pas encore présente, nous pouvons contourner notre mental sceptique en nous posant simplement la question. Qu'en serait-il de penser que l'univers m'aime et que je suis ici pour m'aimer, aimer les autres et vivre l'abondance, la paix, la joie, puis de ressentir l'état corporel et l'état du cœur associé à cette hypothèse. À l'époque qui est la nôtre, parce que nous nous dirigeons rapidement vers l'inconnu, notre travail est de créer et maintenir la fréquence que nous voulons manifester, non d'essayer d'imaginer la forme dans laquelle cette fréquence se manifestera. L'univers se chargera d'amener la forme qui correspond à la fréquence de notre intention et aux vibrations de nos affirmations. À un certain moment de notre développement, il n'est plus nécessaire d'effectuer des recherches tout azimuts pour démêler ce que nous avons vécu et défaire ce qui a été mal tissé. Nous atteignons un niveau qui demande moins de concentration. Nous continuons d'apprendre et d'évoluer, mais l'époque des lourdes tâches est révolue. Nous sommes alignés sur la fréquence de notre âme, et notre âme est alignée sur la fréquence de la Terre et celle de l'univers. Nous sommes dans le flot, nous reconnaissons notre pouvoir de manifestation, nous nous en servons consciemment, notre voyage devient fluide. Pour terminer ce podcast, je voudrais vous lire un texte de Christina von Dreyen. Ce texte est une traduction car Christina est une très jeune femme suisse, pleine de sagesse, qui vit dans la partie alémanique de la Suisse. Ce texte fait suite à la déclaration de l'ancien premier ministre néerlandais et actuel secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui a récemment déclaré que les Néerlandais devaient se préparer à la guerre. Voici ce que Christina von Dreyen explique très clairement. Il s'agit de la conscience des gens. Si quelqu'un dit qu'il faut se préparer à la guerre, cela oriente logiquement la conscience des gens vers la guerre. Les personnes qui veulent des guerres ne peuvent pas simplement les déclencher. Elles ont besoin d'une approbation consciente ou inconsciente de la population. Cette approbation peut prendre différentes formes. Certaines personnes trouvent justifié ou nécessaire qu'il y ait une guerre. Certaines personnes pensent qu'elle est inévitable et que c'est la seule solution. D'autres encore ressentent un tel sentiment d'impuissance qu'elles croient ne pas avoir d'autre choix. Ce sont toutes des formes d'approbation. Certaines personnes savent très bien qu'elles ont besoin pour agir d'un certain niveau d'approbation sur un plan énergétique. Cela vaut pour la guerre comme pour de nombreuses autres décisions. C'est pourquoi il est important que nous nous connections à la paix, que nous choisissions la paix. Lorsqu'une seule personne décide de la paix, cela se manifeste d'abord dans son entourage immédiat, puis sur un plan énergétique, cette information est envoyée dans le champ collectif. D'autres peuvent alors la percevoir et s'ils sont ouverts, la même idée peut leur venir. Lorsque nous choisissons la paix, toutes les dimensions de notre être sont affectées par cette décision. Lorsque nous voulons la manifester, cela fonctionnera mieux si nos pensées, nos émotions et nos actions physiques sont alignées. Il est important de veiller à cet alignement, ce qui demande un processus de prise de conscience. Où avons-nous déjà fait la paix en nous et où sommes-nous encore en guerre? C'est en identifiant dans quel domaine la paix n'est pas encore présente en nous que nous pourrons amener un changement. C'était lors d'un webinaire du 12 février 2025. Une autre citation de Christina est celle-ci. Ce n'est pas comme si la lumière et l'obscurité s'équilibraient l'une l'autre. L'amour inconditionnel a une fréquence très élevée et la non-lumière ne peut supporter cette fréquence. Nous pouvons développer la maturité d'aimer inconditionnellement même ceux qui ne nous aiment pas. Ainsi, nous offrons à la non-lumière la possibilité de se transformer. Ce n'est que lorsque nous affrontons la non-lumière avec des pensées sombres et des jugements que nous lui donnons de la force. Elle ajoute « Le génie est notre héritage, le libre arbitre est notre pouvoir et l'insurmontable le jouet préféré de notre âme. » C'était donc des citations de Christina von Dweyen. C'était Véronique Brard, je vous remercie de votre écoute. Vous retrouverez ces informations dans le numéro 128 du bulletin de l'association Voice Dialogue France. Merci et à bientôt.